marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Mesdames et messieurs, avancez s'il vous plaît, l'histoire va vous parler.
Brasier, Léa, les mères lyonnaises.
Ce sont les femmes justement qui ont fait la gastronomie lyonnaise, la première gastronomie du monde. Ce sont les femmes qui ont créé tous les plats lyonnais. Et c'est justement grâce aux femmes que la cuisine lyonnaise a gardé cette simplicité qui fait sa primauté, parce que notre ville a la réputation d'avoir une cuisine où les choses gardent leur goût originel.
Ainsi parlait André Mur, qui tint longtemps un guide du Lyon gourmand. Et Bertrand Tavernier lui dit « Je crois que Lyon, c'est une ville qui prédispose au retour en arrière. » C'est dans les années 30 que Lyon, qui était déjà le siège du primat des Gaules, décréta qu'elle serait aussi la capitale gastronomique du monde. Il est vrai que sa situation géographique lui permettait de faire venir d'alentour les meilleurs produits, et de surcroît, elle se trouvait au pied d'une colline inspirée, le Beaujolais. Les mères, dont l'histoire remonte bien plus haut, furent les vigies de cette haute époque. La guerre elle-même ne parviendra pas à interrompre leur parcours, non plus que leur approvisionnement. On se demande bien d'ailleurs comment elles ont fait. Dans les années 50-60, c'est le zénith, on parvient difficilement à les compter tant elles sont nombreuses. Elles se nomment Eugénie Brasier, Léa Bidot, Marité Mora, Paul Castin, Fernande Gache. À dire le vrai, elles ne sont pas vraiment du genre « maman la douceur ». Ce sont, à leur manière, des irrégulières, des patronnes aussi, chacune travaillant pour quatre. Une image pourrait les résumer, celle de Léa, allant faire son marché quai de Saône. On ne sait comment elle se débrouille, mais il paraît qu'elle ne dépense pas un rond. Et elle avance, droit, munie de son diable, qu'elle a nommé « Pouette-Pouette ». Il y est posé ce panneau. « Attention !» Faible femme, mais forte gueule.
J'avais une pouette-pouette. On se lève pouette-pouette, pouette-pouette.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
En compagnie de Catherine Simon, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez grandi à Lyon. Je marche dans Lyon comme dans l'intérieur de ma tête.
Oui, c'est une phrase que j'ai volée à Gilles Vaudet, qui a fait un très beau livre qui s'appelle Le nom de Lyon. Et effectivement, ce livre, c'est peut-être d'abord une promenade dans un Lyon, le mien.
Ah, vous avez travaillé à la radio, vous avez retrouvé à la voix, en tout cas, Eva Bettan tout à l'heure.
Oui, absolument, je la salue d'ailleurs si elle m'entend.
Vous étiez à Radio 7 avec elle.
J'étais Radio 7, oui.
Et puis Le Monde, de longues années, on se souvient des grands papiers que vous faisiez dans une époque difficile à Alger. Vous avez d'ailleurs inventé le personnage d'une archéologue algérienne qui devient détective privée, à qui il arrive, dans tel ou tel roman policier, d'aller à Lyon. Et là, votre dernier livre, une histoire des mères lyonnaises, Manger, chez Sabine Vespizer, c'est aussi un récit fait à partir d'un personnage. Vous aimez les dédoublements.
Oui, j'aime bien parce que ça permet de multiplier les points de vue. En fait, je peux regarder par-dessus son épaule, c'est plutôt bien. Et oui, il y a plusieurs histoires dans l'histoire.
C'est pas un détective privé, c'est un journaliste.
C'est un journaliste qui va faire une enquête. Puis c'est un journaliste à l'ancienne, un peu désabusé, mais très, très instruit de l'histoire de la ville et de ces femmes cuisinières, justement.
Il s'appelle ?
Et il s'appelle Étienne Augoyard.
Augoyard.
Comme mon grand-père Lucien.
Alors, pour nous mettre en jambes, je vous propose d'écouter le grand-père de la cuisine glorieuse des années 1970-1980. On a été accablé d'hommages au moment de sa disparition. On pourrait peut-être écouter avec beaucoup d'attention ce qu'il dit de la cuisine des femmes. C'était un entretien avec Sylvie Andreux en 1975.
Je pense que le feu est un métier d'homme, c'est la magie du feu, et ce sont les hommes qui s'emparent du feu. Et comme je dis souvent à mes amis, je n'aime pas coucher la nuit avec une femme qui sente la cuisine. Pour moi, la femme chez elle qui fait la cuisine pour sa famille, pour ses enfants, ça je trouve ça admirable. Mais ce que je reproche aux femmes en général, je vais m'attirer toutes les foudres, mais tant pis, c'est qu'elles ne sont pas... prennent pas de risques. C'est-à-dire que chaque fois que je vais manger, je parle des femmes de restaurant, je leur Les femmes de restaurant, c'est quand même un métier très dur et il faut le faire. Mais je parle, par exemple, si vous voulez, les femmes où je suis invité, ma belle-mère ou...
Les ménagères.
Les ménagères. Oui. Eh bien, si je vais manger chez la même une fois tous les ans, eh bien, je suis sûr d'avance le menu qu'elle va me faire. Ou alors, ce que je crains encore beaucoup plus quand les femmes m'invitent, c'est le plat qu'elles font pour la première fois. Et elles feraient bien mieux de faire une bonne pomme purée comme elles ont l'habitude de faire, un bon rôti de veau et surtout une bonne salade, parce que je pense que c'est les femmes qui savent le mieux assaisonner la salade que les hommes.
Dont acte, mais comment Courtine, le critique gastronomique du Monde, quand vous entriez au journal, disait « Non, ce sont les femmes qui sont les gardiennes du feu et de là vient leur instinct de cuisinière. »
Ouais, comme ça, de Cro-Magnon à Bocuse, en passant par Courtine, c'est effectivement les mêmes bêtises qui sont répétées et crues parfois, pourquoi pas d'ailleurs.
Quand même, il mettait un peu à l'écart de sa condamnation les femmes de restaurant, parce que il a commencé chez une grande, mères lyonnaises.
Qui l'a formé, c'était Eugénie Brasier, oui. Chez qui il a bossé à partir de 1946. Il est rentré comme marmiton, enfin il a tout appris chez elle. Et il a beaucoup travaillé au Col de l'Albert, qui était un des deux grands restaurants d'Eugénie Brasier. Oui, bien sûr, il est passé, Paco aussi a été formé chez Eugénie Brasier, lui s'en souvient. Il a écrit là-dessus. Bocuse, visiblement, oublie un petit peu vite, mais c'est un grand conseilleur.
Mais c'est vrai, on parlera de la mère Brasier dans un instant, que chez pratiquement toutes les mères, ce sont un peu les mêmes plats qu'on retrouve. Enfin, ce ne sont pas des propositions. Elles disent, voilà, il y a ça.
Alors, il y a deux choses. Il y a une phrase que j'aimerais citer d'une grande cuisinière qui est aussi couturière et dessinatrice, qui s'appelle Michèle Berthet, qui est dans Manger, parce que c'est une grande cuisinière, donc il y a une de ses recettes, et elle-même un des personnages du livre. Et elle dit « Les femmes font à manger, les hommes font des chefs-d'œuvre ». Donc voilà, ça, on le dit en riant quand on est des femmes, donc moi ça m'a toujours fait rire cette phrase. C'est pas totalement faux, puisque les femmes, vous voyez, pour la couture par exemple, elles reprisent les chaussettes. Mais la haute couture, c'est rarement des femmes. Bon, la cuisine c'est un petit peu la même chose, donc on fait à manger. Ceci dit, heureusement qu'il y a des gens et des femmes qui font à manger, parce qu'on mange quand même 3 fois par jour. Et puis là où il a tort, Bocuse, c'est que d'abord certaines de ses cuisinières, qui font la cuisine à la maison, font de très bonnes et très raffinées cuisines. Et puis, je pense que, par exemple, Bocuse, comme d'autres, sont allés chez Madame Castin, qui, elle faisait à manger, mais c'était de la très haute cuisine. Et lui ne s'y est pas trompé, comme Ducasse ne s'y est pas trompé, comme les Pointes ne se sont pas trompés. Elle aurait mérité 3 étoiles, c'était une artiste. Donc, il y a un petit peu de tout chez ces femmes cuisinières. Il y a la cuisine de ménage et puis la haute cuisine.
Votre héros, Auguillard, aime beaucoup fréquenter les bouquinistes des quais de Lyon. Et il aime les vieux livres qui lui donnent des dates quant aux pionnières, les dames Guy, qui était mère en fille.
La mère Guy, alors on ne sait pas grand-chose de cette dame, parce que c'était la fin du 19e siècle. Et il y en a une qu'on a appelée aussi la Génie, qui devait sans doute s'appeler, se prénommer Eugénie, donc ça a donné la Génie. Et d'elle, on ne sait qu'une seule chose, c'est une phrase qui était répétée de chroniqueur en chroniqueur, et qui disait « elle avait la parole facile ». Et elle se donnait un type en portant d'originales anglaises. Et puis, on cite un peu les plats qu'elle faisait. Mais dans le fond, on ne sait absolument rien de cette femme. Et moi, j'en ai fait une espèce de cuisinière fantôme. Et je lui invente une vie magnifique, je trouve. Et il y a beaucoup de ces cuisinières, en fait, dont on sait très peu de choses sur leur vie, quoi.
Mais les plats traditionnels chez les mères ne sont pas fantômes. Ah non, ils sont consistants. Saucisson pistaché, graton à l'heure de l'apéritif.
Voilà.
Y a tablier de sapeur.
Tablier de sapeur. Et puis, même le poulet demi-deuil, c'est pas spécialement très raffiné, c'est très bon, mais c'est pas, voilà. Et l'artichaut au foie gras qu'elles ont toutes fait, hein, la mère Filiou la première.
La mère Filiou qui est une des pionnières aussi.
Qui est une des pionnières, oui, qui était au début du XXe siècle et qui a formé Eugénie Brasier, parce que c'est des lignées, ces femmes.
On y vient, Eugénie Brasier. Il y a un seul grand livre, dites-vous, Les secrets de la mère Brasier. Oui, mais alors il y a l'infatigable petite fille, Jacotte, que vous avez souvent rencontré dans votre livre, et qui parle ici dans un documentaire de la Fabrique de l'Histoire avec Perrine Kervran. Elle parle des débuts de Génie.
À 19 ans, étant tombée enceinte et habitant dans un petit village, dans un petit hameau qui s'appelle Dompierre-sur-Vel, qui est dans l'Ain, à côté de Bourg-en-Bresse, ma grand-mère s'est fait mettre à la porte par son père. Donc, elle est partie. Elle a posé son petit à Dompierre, elle l'a laissé en nourrice et elle est venue à Lyon. mais elle ne savait rien faire. C'est-à-dire qu'elle avait simplement une chose qui était très importante, c'est qu'elle avait du lait. Et vous savez qu'à cette époque, on pouvait se mettre comme nourrice. Donc elle s'est placée comme nourrice et elle a eu une chance absolument insensée. Elle est tombée dans une famille d'industriels qui faisait des pâtes, pâtes Milla frères, monsieur et madame Milla. Et là, un jour, la cuisinière est tombée malade, ce qui était rarissime parce que de cette époque, on n'était jamais malade. Même si on était malade à crever, on continuait à travailler.
Et elle va prendre exceptionnellement la place de la cuisinière. Madame Milla va lui trouver du gingin, et va l'envoyer chez la mère Filloux. Dites-moi, les mères, ça leur arrive d'être des filles mères ?
Bah, ça leur arrivait comme à beaucoup de femmes de l'époque, et c'était un désastre, une catastrophe absolue, surtout dans ces années-là. Quoi. Eugénie Brasier a eu son fils en 1914. À l'époque, il y avait d'ailleurs à Lyon, hein, comme sans doute dans plein de villes de France, un endroit pour ça, où on faisait accoucher les filles mères et où on soignait les indigents. C'était un petit peu la même chose. Alors elle est échappée à ça, Eugénie Brasier, pas la mère de Marie Témora, par exemple, dont je cite aussi. Elle a accouché dans cet hôpital de la Charité qui a été détruit depuis. Et effectivement, c'était une malédiction assez banale. Il n'y avait pas la pilule, on pouvait pas avorter en toute sécurité comme on peut le faire un peu aujourd'hui quand même. Et donc c'était effectivement catastrophique. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle s'est retrouvée. Cette malédiction, elle en a fait une chance, puisqu'elle s'est retrouvée à Lyon et qu'elle s'est fait un destin.
Mais c'était pas une femme sans homme, la mère Brasier. Toujours jacote la petite fille à propos de Pierre. Qu'aimait Eugénie ?
Il était chauffeur de maître et il avait le permis de conduire numéro 4 du Rhône. Il s'appelait Pierre, il était mince, petit, et ma grand-mère, elle pesait 100 kilos à 30 ans et il la trouvait trop belle. Bref, en 1924, on a délocalisé le Grand Prix de voitures de course de Paris et il est venu à Lyon. Pierre connaissait tout ce monde de voitures de course. Il a fait venir tout le monde chez ma grand-mère et tout d'un coup, tous les grands coureurs sont venus.
Nulle part ailleurs, le voyageur ne trouve pour l'accueillir et le retenir cadre plus harmonieux, plus souriant, plus gai, plus attractif. Nulle part, il ne voit une rencontre sur sa route cadre plus constamment renouvelé, plus auberge, si alléchante par la saveur de leurs mets et de leurs vins, par la fraîcheur de leurs fruits, par la bonne grâce de leur hospitalité, nulle part ailleurs.
À son emphase, vous aurez peut-être reconnu le président Lebrun.
Et c'était encore un porte-pot. Un porte-pot, c'est-à-dire un petit bistrot. Il n'y avait pas, une carte à rallonge.
Le président Lebrun, les années 30, c'est quand même le moment de la première assomption des mères.
Oui, puisque c'est dans les années 30, en 33, que les premières étoiles du Michelin sont données. Et Eugénie Brasier, comme d'autres, d'ailleurs, il y a d'autres femmes qui l'ont eu, donc Madame Priet aussi dans l'Ain, qui a eu deux fois trois étoiles donc au guide Michelin. Donc effectivement, ça commence à se développer, à savoir surtout dans les années 30. Ça commence vraiment à se développer de manière commerciale, enfin, ce qui n'était pas tout à fait le cas avant.
Le guide Michelin est lié bien sûr à la voiture. Et les clients de la mère Brasier empruntent leur voiture pour la rejoindre au col de l'Albert, où vous avez dit que Bocuse, plus tard, a été formé.
Oui, tout à fait. Elle a été, c'est un petit peu grâce à ses réseaux de l'automobile, la Spidoline, on appelait ça comme ça à l'époque, cette grande marque d'huile de voiture, je crois, et qui, effectivement, lui a emmené de la clientèle. Et puis, il n'y avait pas simplement que le monde de l'industrie, il y avait le monde du cinéma, il y avait toutes les notabilités politiques. La mère Brasier, c'était, on avait basculé dans le luxe, hein, c'était pas les petits bistrots qui existaient dans Lyon. Elle, c'était autre chose, hein, c'était de la truffe, c'était du foie gras, et sa clientèle était à l'avenant, bien sûr.
Mais c'était quand même une maison d'apparence modeste, une entrée traboulée, disait-on.
Ouais, mais c'était très, très, très joliment fait. Enfin, il y avait des murs carrelés, des petits salons, c'était très coquet, très douillet, très confortable, très bourgeois. C'était pas du tout le bistrot avec la sueur par terre et le comptoir en zinc, hein. C'était pas ça. D'ailleurs, le comptoir, elle l'avait supprimé parce qu'elle voulait pas elle voulait pas que les gars viennent déboire des coups chez elle. Donc, c'était directement des salons bourgeois.
Elle préférait la clientèle
la politique.
Du maire de Lyon, par exemple, qui habitait donc pas très loin de chez la mère Brasier, ou du moins la mère Brasier était sur le chemin de la mairie à son domicile.
Ah bien sûr, et le président, enfin Hériot, Édouard Hériot, qui était à la fois le maire de Lyon et président du conseil, donc c'était quand même quelque chose à l'époque, la mère Brasier, la rue Royale, le quartier des Soyeux, c'était entre la mairie de Lyon, l'hôtel de ville, la place des Terreaux, et puis le cours d'Herbouville, où Édouard Hériot avait son domicile. Donc voilà, la cantine était sur son chemin.
Édouard Hériot qui aimait dire qu'un plat c'était une musique. Ceci, c'est pour introduire quelques instants de la voix d'Hériot, qu'on n'entend pas si souvent. Une exposition vient de fermer, qui était intéressante, à la Bibliothèque municipale de Lyon, consacrée à la musique au temps du président Hériot.
Cette œuvre est dédiée à la jeune Giulietta Guicciardi, son élève indigne de lui, qu'il aime, qu'il voudrait épouser, et qui le méprisera pour accueillir un médiocre mélomane, le comte de Gallenberg. Cette fois, le musicien est touché au cœur. Cette sonate est d'une poésie qui égale ou dépasse les nuits de Musset. Le musicien qui écrit l'adagio de la sonate en ut dièse mineur est un homme qui souffre de toute façon.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
L'interprète de Beethoven dont parlait Édouard Hériot, ici c'était Vladimir Horowitz. Alors revenons au maire, cher au président Hériot, qui en 1941 n'était plus aux affaires.
Police! Alors, on mange bien chez Germaine? Il y a de la viande à tous les repas et on ne demande pas les tickets? Allez, vérification d'identité pour tout le monde. Allez, en route. Allez.
On va en apprendre des choses dans l'histoire des maires lyonnaises. Manger chez Sabine Vispizer de Catherine Simon. Le héros, c'est un journaliste à l'ancienne, assez obsédé par les années de l'occupation. Et qu'est-ce qu'il découvre, justement, à propos de l'année 41?
Mais il découvre que Eugénie Brasier a été emprisonnée, pas très longtemps, parce qu'elle était quand même assez protégée. Et puis elle n'était pas juive, elle n'était pas communiste, elle n'était pas... Voilà, donc... Et elle était surtout protégée par Hériot et...
Mais Hériot n'était plus aux affaires.
Oui, mais enfin le réseau lyonnais était quand même là, voilà. Donc ça l'a quand même, je pense, beaucoup, beaucoup aidé. Mais elle s'est fait arrêter, effectivement, c'est un article du Figaro qui me l'a fait découvrir, de l'hiver 41-42, où elle s'est fait arrêter en compagnie de André Guillou, qui était une mère très connue à Lyon aussi. Et donc, toutes les deux ont été arrêtées en même temps qu'un certain nombre de leurs comparses qui allaient abattre des bêtes clandestinement, etc. Enfin, il y avait tout un trafic, comme beaucoup de Lyonnais se livraient au même trafic. Elle a été dénoncée, on ne saura jamais par qui. Et donc, elle a fait ses 8 jours de prison. Et effectivement, son restaurant continue à fonctionner. Et fonctionner pendant la guerre, servir des truffes, servir des artichauts au foie gras, etc., il fallait quand même avoir un certain entre gens. Et elle l'avait. Puisque à la fin de la guerre, après la guerre, on s'est rendu compte que dans la cave, elle avait gardé les provisions amassées de manière gargantuesque, avec des roues énormes de fromage, de gruyère, de la viande qui était dans des jarres, etc., etc. Donc c'était une grande ressource.
C'était pour elle une grande blessure, à tel point qu'elle a fait des pieds et des mains pour obtenir une amnistie, une fois le président Hériot revenu aux affaires.
Revenu aux affaires, absolument. Alors elle a écrit, moi j'ai découvert toute une correspondance, parce qu'elle a beaucoup, beaucoup écrit pour éviter les amendes, surtout parce que c'était des amendes faramineuses. Et elle avait aussi écrit, et pourtant c'était, on savait déjà en août 45, où elle a adressé une lettre au président du Conseil supérieur du comité de confiscation, hein, c'était le contrôle économique, hein, comme on disait plus vulgairement, et donc pour essayer de faire sauter les amendes, elle n'a pas hésité à écrire « Qu'il me soit permis d'invoquer qu'une loi récente a permis aux Israélites d'obtenir l'annulation des actes qu'ils avaient pu faire de leur plein consentement en invoquant la contrainte morale qui pesait sur eux. Nous avons tous vécu dans la contrainte, et pour ma part, c'est dans l'esprit de tenir ma maison ouverte, d'employer mon personnel, etc. etc. »
Dites-moi, le journaliste qui est censé faire cette découverte dans votre livre, Étienne Augueillard, il mène une grande enquête pour le Progrès sur les mers lyonnaises. Donc quand le Progrès de Lyon vous a interrogé tout récemment sur votre livre, le journaliste vous a énormément posé de questions sur cet aspect très important du livre.
Il m'a assez peu cuisiné. Voilà.
Assez peu cuisiné. Mais, beaucoup de mères sont dans le même cas. On va parler de Léa, dont on ne disait pas qu'elle était mère Léa.
Non, il n'y a que la mère Brasier qui s'appelait, s'appelait mère.
Ouais. Léa, la voûte, sur les quais, elle a commencé à établir son premier établissement pendant la guerre.
Oui, c'est ça, en 1943, je crois. Ouais. Et elle l'a ouvert, elle avait du culot, hein, elle a repris une brasserie avec un associé. C'était une très grande cuisinière et elle avait un côté Arletty aussi qui plaisait beaucoup aux clients.
Côté Arletty, donc elle a eu des difficultés
aussi. Oui, elle a eu. Absolument.
Mais pas pour les mêmes raisons.
Et elle aussi, bien sûr, faisait du marché noir, mais tout le monde en faisait. Fernand Point en a fait. Il a été aussi en procès à cause de ça, Fernand Point. Il n'y avait pas de Lyonnais qui ne pouvait pas faire du marché noir, qui n'en faisait pas. Dès qu'on pouvait aller dans la campagne, était à côté quand même. Hein. Et puis Lyon, c'était particulier. Ça n'a pas été une ville occupée.
Jusqu'en 42, jusqu'en novembre 42.
Voilà.
Vous êtes comme nous, vous allez à l'INA pour votre livre. Et alors, vous dites, mais Léa, c'est pas possible qu'on la fasse passer à la radio parce qu'il faut l'image.
Ah ouais, c'est trop génial, on comprend mal enfin, ce qu'elle dit. C'est un poème quand elle parle, c'est sa langue.
Oui, quand même, j'essaye de traduire à l'avance. Elle va parler de la sensibilité qu'une femme a en cuisine. Léa, je rappelle, c'est celle qui
Léa, c'est celle qui a la carriole.
Poète.
Faible femme, forte gueule.
Vos achats, vos courses, vous les faisiez où?
Avec un diable. Eh ouais, j'avais une poète pour qu'on me fasse passer parce que j'étais chargée, j'avais des camions, j'avais des blés, j'avais un tas d'affaires dessus ma charrette. Alors il fallait laisser passer. Alors, je disais poète. Alors je disais, madame Léa, on me laissait passer.
Vous alliez où?
Sur le quai, de Saint-Antoine.
Quand vous êtes arrivé ici, vous aviez envie de faire quoi?
La cuisine.
Mais quoi?
Mais tout. Tout ce qui passe par la tête, tout ce qui a du parfum, tout ce qui est au vin. Le tablier de sapeur, c'est ma création. Les macros vins blancs, pour que je ne peux même pas les faire ce que je fais. Il y a même un grand chef qui est à Annecy qui ne peut même pas les faire. Enfin, ça, c'est moi. Je ne cherche à comprendre. Quelqu'un qui a de la saveur, qui a de la sensibilité. Elle vit avec ça, vous comprenez. Alors elle a ça dans la peau, il n'y a rien à faire. C'est comme une femme qui a un homme dans la peau, eh ben, elle ne peut pas s'en défaire.
Une interview d'Anne Masson dans les dernières années de la vie de Léa Bidault. C'est une affaire de sensibilité, c'est comme une femme qui a un homme dans la peau. Alors, il y avait Pierre le chauffeur pour Eugénie, et là, il y a Gaby le boxeur pour Léa.
Qui avait un restaurant pas très loin, enfin un restaurant, un bistrot plutôt, où il était un des premiers consommateurs d'ailleurs, puisqu'il adorait boire, il buvait à longueur de journée, et d'ailleurs il a été enterré on s'est servi de son comptoir pour l'enterrer dans son comptoir. Enfin, on s'est servi des éléments de son comptoir pour quand on l'a enterré. Et Léa était folle de Gaby, elle était folle amoureuse. Et effectivement, la cuisine, c'est pour ces femmes-là, c'est une passion, donc une passion, c'est physique aussi. Bien sûr, comme la nourriture, la cuisine, c'est physique, ça fait rêver, mais c'est physique, c'est un peu comme l'amour, ça fait rêver, c'est physique. Une autre grande cuisinière, c'est Paul Castin. Elle aussi, c'était une passion formidable qu'elle avait pour la cuisine. C'était tout dans sa vie. Et Léa, on s'en rappelle peut-être mieux parce que beaucoup de gens sont passés chez Léa. Elle était près de la place Bellecour, donc elle était très connue. Elle avait cette espèce de gouaille là, dont on entend les échos. Et on l'aimait beaucoup, pour y compris le cinéma qu'elle faisait pour cuisiner. Elle forçait ses clients à entrer par la cuisine, donc à traverser la cuisine, au milieu des plats, des casseroles, et aller s'asseoir ensuite. Donc ils avaient déjà eu un aperçu de ce qu'ils allaient manger avant avant d'aller s'asseoir.
Et notre ancien réalisateur, Jacques Sigal, qui est une fine gueule, n'a pas manqué de me rappeler ce matin, la première fois où j'y suis allé, m'a-t-il dit. Je suis passé par la cuisine, j'avais réservé, il y avait mon nom sur la table. Elle a enlevé mon nom en disant non monsieur, il n'y a pas de réservation à votre nom.
Et voilà, elles étaient comme ça, elles se laissaient pas faire et elles imposaient. C'était un lieu aussi, c'est-à-dire que c'est celles qu'on a appelées des mères lyonnaises, elles étaient très peu maternelles, elles n'étaient pas du tout lyonnaises, la plupart étaient nées, enfin toutes étaient nées dans, c'était des immigrés de départements voisins, hein, ou même un peu lointain. Et en réalité, ce qui était très important aussi pour elles, c'est de faire un lieu. Elles étaient la patronne de leur lieu. C'était pas simplement faire la cuisine. C'était le restaurant qui était à elles et qui était quelque chose quand même d'assez inouï à l'époque. Quand on se rappelle que dans les années 60, il y a seulement 40% des femmes en France à peu près qui travaillaient. Et quand on se rappelle que les femmes, il a fallu qu'elles attendent 1965 pour avoir droit à un compte bancaire, à un chéquier. Donc on n'avait pas le droit non plus, théoriquement, de diriger une entreprise. Il fallait avoir un associé homme, bien sûr, son mari ou autre. Et donc, elles ont quand même bravé toutes ces choses-là pour pouvoir s'imposer sans faire de bruit. Ce n'était pas des revendicatives, il n'y en a aucune qui s'est dit féministe, mais dans le fond, elles étaient très émancipées avant l'heure.
J'aimerais que vous évoquiez la rencontre d'Étienne Goyard, c'est-à-dire sans doute la vôtre, avec l'une d'entre elles, qui vit toujours, et qui s'appelle... La mère Gache.
Fernande Gache.
Fernande Gache. Naître sous les ordres de personne, décider des menus, des dépenses, recevoir les gens, les faire s'asseoir ici ou là, là où on veut, et les voir joyeux. Rien que ça, c'est mon oxygène.
Bien sûr, parce que Fernande Gache, alors elle, c'était... Enfin, je la salue si elle écoute la radio, mais...
Elle peut podcaster aussi.
Elle peut podcaster.
Je suis sûr qu'elle va podcaster. Enfin, elle vit dans un endroit retiré.
Oui, mais on peut podcaster dans son endroit retiré, qui est en Savoie. Et donc, elle avait son bistrot rue René Lénaud, qui était un résistant, comme chacun sait, qui a habité là, et donc son bistrot en fait était très moche au départ, c'était un quartier très populaire, hein. C'est la rue Lénaud, les gens bossaient, rue Lénaud, il y avait des artisans, il y avait des ouvriers, etc. Bon. Donc c'était un milieu populaire, c'était pas du tout la rue royale de la mère Brasier. Et la cuisine qu'elle faisait était une cuisine qu'on évoquait un peu tout à l'heure, une cuisinière, elle faisait à manger, elle disait moi je faisais pas de la grande cuisine, je faisais à manger. Et elle faisait des plats, des blanquettes, la poule au riz, etc., etc. Et surtout elle avait ce lieu qu'elle avait fait sien, et elle y est restée amarrée, elles sont restées, ces femmes, dans leur lieu. C'était la première fois que des femmes avaient un lieu à elles, un lieu de travail où elles étaient la patronne, et effectivement elles recevaient d'ordres de personnes, et donc dans ce lieu-là tout le monde n'y rentrait pas, ou en tout cas tout le monde n'y restait pas, s'il se tenait pas bien ou si simplement la tête ne revenait pas. On avait vite fait de dire que c'était complet, et de mettre les gens dehors, des fois dans termes plus brutaux même, voilà. C'était leur lieu, c'était leur lieu, et c'était un lieu où elle passait presque 24 heures, hein, parce que souvent, par exemple, Fernande Gache, elle a vraiment fait le travail de 4 personnes. Elle est retournée dans son ancien bistrot, qui est devenu un bistrot branché maintenant.
Et on alors, elle a constaté,
oui,
elle a compté le nombre de personnes
bien
qui travaillaient.
Puis là, le patron lui veille un café, elle regarde un peu, puis elle dit, il y a le patron, il fait la salle, il y a deux nanas en cuisine, il y en a une qui fait la caisse, d'accord. Donc j'ai fait le travail de 4 personnes pendant 50 ans.
La mère Gache, dites-vous, elle a une telle mémoire, à moins que ce ne soit au Goyard qui est capable de restituer la place Bellecour en 1942 en disant « ici, il y avait ceci, ici, il y avait cela ». Et elle a une telle mémoire qu'elle arrive à reconstituer son quartier.
Elle l'a fait vraiment.
Ouais, c'est avec un dessin. Son bic, ouais. Et puis là, elle vous dit « tiens, là, il y a l'épicier tunisien ».
Oui, Monsieur Drina. Monsieur Drin, qu'elle aimait beaucoup, c'était son voisin d'en face. Et dans le quartier, c'était... Alors, parce que souvent, les mères lyonnaises ont... C'est marqué années 50. Mais en fait, elles ont vraiment traversé le siècle. Et donc, la mère Gache, Fernande, elle, c'était aussi les années 60, la guerre d'Algérie. Et c'était un moment où Lyon, il y avait beaucoup de travailleurs maghrébins qui déboulaient des pentes de la Croix-Rousse pour aller bosser. Ils n'allaient pas manger chez elles, parce qu'on n'allait pas au restaurant quand on était pauvres comme ils l'étaient eux. Mais par contre, tous les petits artisans de la Croix-Rousse venaient manger chez elles à midi. Et elle les connaissait tous, elle les connaissait très bien. Il y avait Monsieur Ortola, il y avait Monsieur Drin. Elle aimait beaucoup Monsieur Drin. Et elle raconte aussi les Tunisiennes qui étaient venues la voir, qui habitaient dans le quartier, parce qu'elle voulait aller au planning familial. Et alors, elle voulait savoir, pour employer le bon terme, est-ce qu'il fallait demander un stérilet, la pilule. Donc elles avaient discuté avec la mère Gache, qui les avait très gentiment renseignées.
Et donc c'est les Restos du Cœur conclut le progrès quand ils vous interviewent.
C'est des vigies
sociales.
C'est
peut-être
un peu excessif.
Manger, une histoire des mères lyonnaises chez Sabine Fespizer, votre dernier livre. Merci à vous, Catherine Simon.
Merci.
L'émission était réalisée par Audrey Ripouille avec Selim Garibi et la préparation c'était Ilinka Negulescu. On a couvert, Daniel Fievet, le moment où on commençait à parler d'avortement par la musique du générique. Et vous, c'est quoi votre programme ?
On prend le relais en quelque sorte, les adolescents face à la pornographie et la place que ça occupe dans leur éducation à la sexualité.
La tête au carré, ce sera dans un instant.